André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur.
Bienvenue dans Théâtralité. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'émissions consacrée à l'auteur de théâtre Jean-Paul Allègre. Il est depuis plusieurs saisons et d'après les statistiques de la FNCTA, Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur, un des auteurs vivants les plus joués en France. Il est également le président du Centre des Bords de Marne, scène conventionnée d'intérêt national au Perreux-sur-Marne. Jean-Paul Allègre a suivi le travail du Théâtre du Soleil, où il participe à la production des spectacles 1789 et 1793. Et c'est d'abord en écrivant pour sa troupe qu'il baptise Théâtre du fil d'Ariane, en hommage à Ariane Mnouchkine, que Jean-Paul Allègre est devenu auteur dramatique. Dès 1978, il écrit sa première pièce, Écoute le bruit de la mer. En 2017, il est lauréat du prix Ado du théâtre contemporain pour sa pièce Moi, Ota, Rivière d'Hiroshima, qui fait son entrée en 2003 dans la collection de classiques scolaires Les Carrés Classiques aux éditions Nathan. L'ouvrage est destiné aux classes de 3e, 2e et 1e, avec un appareillage critique de préparation aux épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat, élaboré par Françoise Rioux. Bonjour Françoise Bénard.
Bonjour André, bonjour Philippe et bonjour à tous.
Bonjour Philippe Merlade.
Oui, bonjour Françoise, bonjour André, bonjour à tous.
Content de vous retrouver et merci d'être avec nous, pour nous faire partager les extraits du texte de la pièce de Jean-Paul Allègre, « Moi, Ota, rivière d'Hiroshima » dont nous allons parler aujourd'hui. Cette pièce, « Moi, Ota, rivière d'Hiroshima » a été créée en 2015. Elle est sous-titrée « Le matin » où la nuit est tombée, et évoque littérairement le bombardement atomique de la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Elle a été écrite par Jean-Paul Allègre à la demande du maire de la ville d'Hiroshima, créée en langue japonaise à Tokyo et à Hiroshima sur le lieu même de la catastrophe. Au milieu de la ville d'Hiroshima coule la rivière Ota, paisible et majestueuse. 70 ans après la catastrophe nucléaire, Ota raconte. Le 6 août 1945, par une magnifique matinée d'été, un avion largue au-dessus de la ville, une bombe atomique d'une puissance jusqu'alors inégalée. Un éclair déchire le ciel. Ota entre en ébullition. Une pluie noire recouvre la terre dévastée pendant que s'installe la nuit nucléaire. Depuis l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, la guerre fait rage dans le Pacifique. Courant 1943 et 1944, les Américains reconquièrent difficilement les îles et archipels conquis par le Japon en 1941 et 1942. Chaque île est le théâtre de combats acharnés entraînant des milliers de morts et de blessés. Les forces américaines se rapprochent du Japon. Depuis 1942, avec le projet Manhattan, les Américains ont lancé un vaste programme de recherche pour la création d'une bombe d'un nouveau genre capable de détruire une ville entière. À Washington, les discussions vont bon train. Faut-il larguer une telle bombe sur le Japon? Est-ce défendable sur un plan moral? Sur un plan militaire, cela entraînera-t-il une fin de la guerre et une capitulation du Japon? À Hiroshima, le fleuve Ota, considéré comme un personnage vivant, évoque sa situation. C'est Ota, la rivière d'Hiroshima, qui raconte. À la première personne, elle, qui de roche en roche descend du mont Kanmuri jusqu'à la mer de Seto. Elle, qui, calme et majestueuse, profonde mais pas trop, n'est que douceur. Voici un premier extrait du début.
Je m'appelle Ota, Otagawa, la rivière d'Hiroshima. Si vous m'avez croisée, je suis sûre que vous m'avez trouvée calme et majestueuse. Large mais pas trop, profonde mais raisonnablement. Une belle rivière aurait-vous peut-être songé? Merci. En fait, comme toutes les rivières du monde, je suis changeante. Au début de mon parcours, là-haut, sur le mont Kanmuri, à 1300 mètres d'altitude, je bondis de roche en roche comme un petit animal qui vient de naître. Je pars dans tous les sens. Je m'amuse avec les cailloux, les herbes de mes rives, l'ombre des petits arbres qui se penchent vers moi. Et puis, Au fur et à mesure que je descends vers la mer, je me discipline, je prends du volume. Nous, les rivières, sommes comme vous, les êtres humains. Des fulgurances de la montagne à la sagesse de la plaine, nous prenons du poids. Mais je reste quand même jeune et svelte lorsque je rencontre la mer intérieure de cette eau. Imaginez, je ne fais guère que 103 kilomètres, c'est si peu par rapport à certaines de mes sœurs d'Europe centrale, d'Afrique, d'Amazonie. Moi, je suis modeste. Tenez, je pourrais revendiquer le terme de fleuve, par exemple. Après tout, comme je viens de vous le dire, je me jette dans la mer. Mais je préfère que vous m'appeliez rivière. Cela me convient parfaitement. D'ailleurs, au moment de rencontrer la mère de cette eau, je ne fais pas la fière, je me divise, je deviens multite. Vous nommez ça un delta. Moi, je dis simplement que je transforme mon lit principal en plusieurs petites branches secondaires. C'est bien, non? C'est moins arrogant au moment de rencontrer l'infinité des océans. Bref, je suis Ota, la belle, la douce et, comme toutes les rivières, pour peu qu'on les écoute, je suis venue vous raconter une histoire. Elle commence le 11 octobre 1939. Nous sommes dans un des lieux les plus célèbres de notre planète, le bureau ovale des présidents des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche à Washington. L'homme qui est assis est l'occupant de ce bureau, le président Roosevelt. Celui qui vient d'entrer et qui s'adresse à lui est son conseiller pour les questions scientifiques. Il s'appelle Vannevar Bush.
Ota raconte. Oui, Ota raconte aussi une autre histoire. Dans le bureau ovale des présidents des États-Unis, ce jour-là, Vannevar Bush expose au président Roosevelt, en citant Einstein, Henri Becquerel, les Curie et bien d'autres, qu'il sera bientôt possible de construire des bombes d'un nouveau type dans des échelles de puissance qui défient l'imagination, et précise que les Soviétiques aussi sont sur le coup. Puis, les deux hommes se séparent.
« Portez-vous bien, » dit le président américain dans son grand bureau ovale. « Moi, à cette époque, je me porte bien aussi. Je coule paisiblement. » Et quand je traverse la grande ville, celle qui est ma dernière vision avant que je ne mélange mes eaux douces à celles plus corsées de la mer, je ralentis un peu, je freine mon courant, je musarde, car j'aime l'atmosphère de ces larges rives où se mêlent sable et gravier. Ici, c'est la vie.
Ota raconte aussi les lettres de deux jeunes enfants. Akimitsu, qui habite chez son oncle à Hiroshima, une ville superbe, entourée de montagnes boisées, et Yoshi, son petit frère adoré, qui vit à Tokyo, une grande ville dévastée par la guerre. Inquiète du quotidien difficile de Yoshi, Akimitsu va l'exhorter de fuir la capitale.
Yoshi, petit frère adoré, aujourd'hui, je t'écris de la maison de notre oncle Kazuhito. C'est une demeure modeste, mais propre et bien confortable. Notre oncle et notre chère tante sont des gens accueillants, tels que nous les avait décrits papa. Ils m'ont reçu avec une grande gentillesse. La ville d'Hiroshima est superbe. Ici, on voit bien qu'on est dans le sud. Le temps clair, les montagnes qui entourent la ville sont boisées. Parfois, on a presque l'impression que c'est la jungle, tant il y a d'espèces d'arbres différents. Notre oncle est pêcheur, comme notre père. Et hier, il m'a emmené sur son bateau. Nous avons fait le tour d'une île magique qui s'appelle Maiyama. L'eau est bleue et claire. Pas du tout comme celle que l'on voyait sur la baie de Tokyo quand papa nous emmenait sur son bateau à lui, qui était plus grand que celui de notre oncle d'ailleurs, mais moins rapide, pour ce que j'ai pu comprendre. À un moment, nous avons accosté sur l'île où l'oncle Kazuhito a échangé des poissons contre des légumes magnifiques. On en a profité pour faire un petit tour et j'ai pensé à toi, car il y avait plein de biches. Oui, des biches en liberté, mais pas du tout craintives. Elles viennent te manger dans la main, c'est mignon comme tout. Et tu aurais adoré, toi qui aimes tant les animaux et qui te plains qu'il y en a de moins en moins dans la grande ville. Au retour, notre oncle nous a fait longer le grand sanctuaire Tori, qui, à marée haute, est entièrement baigné par la mer. J'ai prié pour l'âme de papa et pour celle de maman. J'étais triste, bien sûr, mais ce paysage est si beau, si doux, si serein et... Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie relativement apaisée. Voilà. Je dois maintenant aller aider notre tante et je vais poster cette lettre. Je ne sais pas combien de temps elle va mettre pour te parvenir à Tokyo avec cette guerre. Donne-moi de tes nouvelles. Tu n'écris pas souvent et je me fais du souci. Ta sœur, Akimitsu.
Et Yoshi répond à sa grande sœur.
Akimitsu, ma chère grande sœur. J'étais bien content de recevoir ta lettre. Je suis heureux de voir que tu te plais à Hiroshima. À côté de Tokyo, ça doit être le paradis. Ici, il y a eu des bombardements terribles. Mon maître, le cordonnier Saragawa, m'a dit que des avions américains ont déversé des bombes incendiaires. Il m'a dit aussi qu'il y avait eu de nombreuses victimes. Mon ami Yasushi est mort et je ne l'ai appris qu'il y a quelques jours. Du coup, le magasin de maître Saragawa a brûlé et nous nous sommes transportés dans le quartier de Ryogoku. J'aime bien. Même si la deuxième échoppe de mon patron est plus petite et que je suis obligé de dormir dans l'atelier une fois le travail terminé avec les deux autres apprentis. Ici, c'est le quartier des lutteurs de sumo. Tu t'en souviens? Il y a là le grand stade où ont lieu les combats. C'est trop cher pour que j'y assiste, bien sûr, et de toute façon, il n'y en a presque plus à cause de la guerre. Mais nous croisons les sumotori qui ne sont pas partis dans les îles et je suis impressionné. Il y en a même qui sont clients chez nous, et quand ils viennent, maître Saragawa me laisse souvent m'occuper d'eux. J'aimerais bien que tu sois là pour voir comment je sais me débrouiller maintenant. À part ça, Tokyo est bien triste, et même pour la fête des cerisiers, le cœur n'y était pas. Mais ne t'inquiète pas trop pour moi, grande sœur. Tout cela ne va pas durer éternellement. Maître Saragawa dit que nous allons gagner là-bas, dans les îles, et que tout redeviendra comme avant. Salue respectueusement de ma part notre oncle et notre tante. Je ne les connais pas, mais papa et maman m'ont souvent parlé d'eux et je sais qu'ils sont très gentils avec toi. Donc, je les aime déjà. Ton frère, Yoshi.
Et Ota, pendant ce temps-là?
Et moi, pendant ce temps-là, je passe, je coule, je bruisse. Je suis toujours différente et toujours la même. J'ignore toutes les discussions du vieux président malade avec son conseiller scientifique. J'amène mes os dans un long et lent et calme travail mille fois recommencé, de là où elles doivent partir, vers là où elles doivent aller. Je suis liquide et solide à la fois. Je suis impalpable et pourtant bien présente. Je suis la rivière Ota. Tiens, ami, écoute ce bruit. C'est Tsunade, le vieux pêcheur qui habite après le pont. Il n'a plus beaucoup de force dans les bras, mais il est malin. Il profite de mon courant pour descendre vers la mer. Il s'arrêtera après le grand lavoir. Tu sais, là où, dès le matin, il y a des exclamations, des rires, des cris et ce bruit lancinement du linge que l'on meurtrit. Il faut croire qu'après tout ce tapage, mes poissons ont faim. Car Tsunade connaît des creux dans mon lit, encore un peu plus bas, et c'est là qu'il jette son vieux filet rapiécé. Il revient rarement bredouille. Il attend que la marée remonte, que mon courant s'inverse et qu'il ramène sa vieille barque, aussi ridée que lui. Sans trop d'efforts. Je te le dis, c'est lui. Je reconnais entre mille sa manière d'attaquer ma surface, légèrement de biais, car il connaît ma capacité de résistance. Il ne cherche pas, là, comme ses jeunes confrères pleins d'allant, à me défier, à me repousser loin des flancs de l'esquif. Non, lui, il s'appuie sur moi. Il sait me rendre son allié pour faire avancer son bateau. Un malin, je te dis. Et voilà le navire de la conserverie de poissons. Je l'aime moins, celui-là. Je le tonnerre sur mon échine. Mais ses hélices luisantes, ses filets automatiques, ça ne me plaît pas beaucoup. Enfin, tout le monde a le droit de naviguer sur mes flots. C'est la loi de la rivière. Ainsi va la vie, le long de mes eaux changeantes.
La vie, c'est aussi une autre lettre d'Akimitsu.
Yoshi, petit frère, j'ai bien reçu ta lettre et elle m'a fait du plaisir et de la peine à la fois. Du plaisir car je suis heureuse de voir que tu vas bien. De la peine car je sens bien que la vie est difficile pour toi à Tokyo. J'ai été horrifiée de savoir que tu étais obligée de dormir dans l'atelier de ton patron. Papa n'aurait jamais toléré cela. Oncle Kazuhito n'est pas content non plus. C'est pourquoi tu trouveras dans cette enveloppe un peu d'argent. Avec cela, tu devrais pouvoir louer une chambre, même si c'est tout petit, dans le quartier des sumo dont tu me parles. Notre oncle et notre tante sont des gens d'une grande bonté et d'une grande simplicité. Oncle Kazuhito ressemble beaucoup à papa. Et il me dit souvent que toi et moi devons être fiers de nos parents. Maman a lutté contre la maladie avec dignité, m'a-t-il affirmé. Et même si nous étions trop petits pour nous en rendre compte. Et papa nous a élevés avec tendresse et fermeté selon les mots de notre tante, et il est mort faisant son devoir, là-bas dans les îles. Ça me fait du bien de te faire partager ces paroles. Dès que tu as trouvé une chambre, écris-moi vite. Ta sœur, Akimitsu.
Grande sœur, mais quelle surprise quand j'ai ouvert ta lettre. Tu remercieras oncle et tante et tu peux leur dire que grâce à eux, je ne dors plus dans l'atelier de mon patron. J'ai trouvé une petite chambre assez facilement car beaucoup de gens ont quitté Tokyo ces derniers temps. Du coup, je travaille avec encore plus de plaisir et je prends vraiment goût à ce métier. Je sais presque réparer tous les types de chaussures, mais j'ai encore du mal avec les sabots. Ça paraît le plus simple et en fait, c'est le plus compliqué. Si tu ne rabotes pas parfaitement l'intérieur, les clients se plaignent. Et si tu les fais trop lisses en dessous, c'est encore pire. On a de moins en moins de travail et le patron ne réussit pas toujours à trouver de la matière première. Il n'y a plus de cuir, par exemple. Tout part pour les soldats dans les îles. Comptes-tu rester à Hiroshima, grande sœur? Dans ce cas, je pourrais peut-être te rejoindre, moi aussi. Il faudrait bien sûr qu'oncle et tante acceptent de m'accueillir. Mais je vais terminer mon apprentissage, il doit bien y avoir des cordonniers là-bas. Mon patron m'a dit qu'il y avait plein d'échoppes le long d'une belle rivière qui traversait la ville. Et puis, je pourrais aussi aider sur le bateau de notre oncle. Papa m'a amené souvent sur le sien et je connais les techniques de pêche. Dis-moi ce que t'en penses. De toute façon, ce ne serait pas possible qu'à partir de la fin du mois de juillet ou du début d'août. Ton frère, Yoshi.
Yoshi, petit frère, plus j'en discute avec oncle et tante, plus nous pensons que tu dois nous rejoindre à Hiroshima. Oncle dit que tu trouverais très facilement un emploi de cordonnier ici ou que tu pourrais t'engager sur un bateau. Le sien est trop petit, il a déjà un matelot, mais la pêche est très active ici. Moi, je travaille beaucoup. J'ai toujours dans l'idée de terminer mes études, mais tant qu'il y a la guerre, j'aide notre tante à préparer et vendre le poisson sur le marché et j'apprends à lire et à écrire à nos petits cousins. Et puis, je me sens en sécurité ici. Il n'y a pas de bombardement à Hiroshima et très peu de militaires. La ville est calme. Notre quartier est sur la rive droite de la belle rivière Ota, celle à laquelle faisait allusion ton patron. En faisant attention au courant, avec la marée en particulier, on peut même s'y baigner. Toi, papa, t'as appris à nager très tôt. Tu n'aurais aucun problème. Moi, je fais attention. Je me trempe juste les pieds, puis de toute façon, notre tante a peur de l'eau. C'est bien une femme de pêcheur. Elle s'en méfie. Pourtant, tu serais surpris. L'eau n'est pas sale du tout ici, ni grise comme dans la baie de Tokyo. Voilà, petit frère. Viens me rejoindre. Ta sœur Akimitsu.
Akimitsu, ma sœur bien-aimée. Je suis très heureux de t'écrire cette lettre aujourd'hui. Tu vas être surprise et contente. Tout ce que tu m'as dit sur Hiroshima me montre bien que c'est le paradis là-bas. Enfin, comparé à la vie de Tokyo qui devient de plus en plus dure et triste. Aussi, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à mon patron, maître Saragawa, que je souhaitais te rejoindre dans le sud. Et il n'était pas content, tu penses bien. Car on manque cruellement de bras ici et je ne rechigne pas au travail comme tu sais. Mais je lui ai expliqué que tu étais ma seule famille maintenant et il a fini par comprendre. Et pour une fois, j'ai eu de la chance. La semaine dernière, un garçon de mon âge est arrivé à Yokohama. Son père est mort à la guerre lui aussi. Il était pilote d'avion et lui a laissé un petit véhicule. Nous avons sympathisé. Il va reprendre ma place chez maître Saragawa ainsi que la petite chambre que je loue dans le quartier de Kyokoku. Avec mes économies et ce que me doit encore mon patron, j'ai tout juste de quoi acheter un billet de train. Il y en a un qui roule la nuit, c'est moins cher et plus sûr, paraît-il, par rapport au bombardement. Il arrive tôt à Hiroshima, mais si tu ne peux pas venir me chercher, ce n'est pas grave. Je me débrouillerai. J'arriverai le matin du 6 août. Ton frère, Yoshi.
Dans le bureau ovale de la Maison Blanche, au fil des rencontres, Vannevar Bush, le conseiller, et le président Roosevelt peaufinent le projet. Parle d'Oppenheimer, un jeune et génial physicien mouillé jusqu'au cou dans le dossier de 1000 tonnes d'uranium nécessaire, de 140 000 personnes impliquées, de milliards de dollars d'investissement. À la mort de Roosevelt, le président Truman prend le relais, évoque des dates, des cibles, des fenêtres de tir, pendant qu'Akimitsu et Yoshi se réjouissent de leur retrouvaille à Hiroshima le 6 août 1945. La jeune Akimitsu, adolescente, orpheline et résidant à Hiroshima, va se rendre à la gare le matin du 6 août. Uta raconte.
En descendant vers toi, ami, je suis devenue de plus en plus puissante, de plus en plus majestueuse. Tu sais, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis vorace, je suis un ogre. Je me suis nourrie de tous les ruisseaux ruisselets qui passaient à ma portée, de la moindre goutte d'eau. J'ai tout attiré à moi. Et c'est ainsi que j'ai marché vers toi, de plus en plus lourde des eaux des autres. C'est comme ça que nous, les rivières, devenons pour vous symbole de vie, de travail, source d'admiration. Alors moi, Ota, la belle, en descendant vers toi, je suis devenue plus ronde et souple. Je ne roule plus mes galets, je joue moins avec mes rochers. Car il faut que j'avance vers l'estuaire. Il faut que je t'aide, ami, que je fasse tourner tes moulins, tes usines, que j'abreuve tes villes, tes villages. Il faut que je porte tes bateaux. En approchant de la mer, je deviens sage. Et mon chant devient ample et mélodieux. Et voici, ami, qu'approche le moment. Et voici, ami, que s'envole Little Boy dans les flancs du grand oiseau longiligne et puissant. Et moi, justement, je suis aux portes de la ville. Alors moi, Ota, il a bien fallu que je reprenne mon travail de rivière. La mer de ses taux m'attend, il faut que j'aille à sa rencontre. Alors je coule, je roule mes flots les uns sur les autres, j'avance, calme et lente, solide et éternelle. Mais j'ai vu. J'ai vu l'éclair. J'ai vu le moment où la nuit est tombée sur un calme matin d'été. J'ai vu les patientes constructions des hommes disparaître en une fraction de seconde. J'ai vu les corps délicats des enfants se transformer en larges gouttes de pluie noire. J'ai vu l'impossible. J'ai vu l'indicible. J'ai vu ce petit garçon dont les doigts se sont mis à fondre comme de la cire, comme les larmes d'une bougie, et qui regardait sa main avec des grands yeux interrogateurs qui semblaient dire « Pourquoi ma main si fidèle s'amuse-t-elle à ce terrible jeu ?» Et j'ai vu les yeux de sa mère qui le tenait dans ses bras et qui posait une question à laquelle personne ne pourra jamais répondre. J'ai vu cet ouvrier sur son échelle qui s'est volatilisé et n'a laissé que son ombre gravée sur un pan de mur. J'ai vu Akemitsu, qui longeait mes rives pour aller chercher son petit frère à la gare, perdre soudain la peau de ses bras et se jeter dans mes eaux qui étaient déjà devenues un piège mortel. J'ai vu Yoshi, un petit baluchon à la main, devenir torche vivre. Et il faut que je continue ma route, mon chemin de rivière, vers la mer. Mais moi, Ota, celle qui est passée à Hiroshima le matin où la nuit est tombée, je sais.
Récit d'Akemitsu.
Non, il n'y a pas de récit d'Akemitsu. Akemitsu allait chercher son petit frère à la gare. Elle s'est jetée dans mes flots, ses bras brûlaient, mes os brûlaient aussi. Il n'y a pas de récit d'Akemitsu. Akemitsu se trouvait à 123 mètres du point zéro.
Récit de Yoshin.
Non, il n'y a pas de récit d'Yoshi. Yoshi avait déjà quitté la gare et marchait à la rencontre de sa sœur en suivant mes berges. Il se dirigeait vers le pont Aioi. Yoshi se trouvait à 23 mètres du point zéro.
Alors, Yoshi, petit frère, petit gars solide, petit bloc de vie, de muscles, de chair jeune et vive.
Alors Yoshi, qui marchait vers la joie de retrouver les bras de sa sœur.
Alors Yoshi, qui marchait vers la curiosité de découvrir oncle Kazuhito et son bateau tranquille.
Alors Yoshi, qui marchait vers la vie.
Alors Yoshi est devenu lumière.
Alors Yoshi est devenu éclair.
Alors Yoshi est devenu poussière.
Alors Yoshi est devenu le souvenir de Yoshi.
Alors Yoshi est monté très haut, là, dans le ciel, encore pur, où l'aile d'un grand avion gris dessinait un virage serré dans l'espace.
Alors Yoshi, petit frère, petit gars paisible, est devenu pluie fine.
Alors les muscles de Yoshi, faits pour la vie, pour la course, pour la pêche, pour réparer des sabots, pour assouplir les cuirs, pour sortir le luisant poisson de l'eau.
Avec les muscles de Yoshi, sa peau qui ne connaissait pas encore les rides du temps, son cœur plein d'énergie, toute la merveilleuse machine de son jeune corps.
Tout cela est devenu pluie fine. Puis, pendant que la nuit tombait lentement sur la ville hébétée, les fines gouttelettes de Yoshi se sont agrégées aux autres.
À celles provenant des corps de milliers d'autres habitants.
Et ces gouttelettes sont devenues pluies lourdes et noires et se sont abattues sur les ruines.
Et moi, la rivière, il faut bien que je pleure.
Le 6 août 1945, sur les 350 000 habitants d'Hiroshima, près de 140 000 sont tués par l'explosion, sur le coup, ou dans les heures ou les jours qui suivirent. et dans des conditions particulièrement atroces. Et le 9 août 1945, une seconde bombe atomique est larguée sur le grand port de Nagasaki, au sud du Japon. L'explosion de cette bombe au plutonium, au lieu de l'uranium utilisé sur Hiroshima, causa la mort de près de 80 000 habitants. Merci Françoise, merci Philippe. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. « Ainsi, ami, en ramenant cette flamme à la nuit, tu feras naître les innombrables lumières de l'espoir et tu permettras à un petit garçon de quitter une gare, un modeste baluchon à la main pour aller vers sa sœur, aux longs yeux d'amande et au sourire tranquille, et qui marche aussi vers lui, longeant les bords d'une rivière heureuse. » Elle est de Jean-Paul Allègre, dans « Moi, Ota, rivière d'Hiroshima ». Vous retrouvez le podcast de cette émission sur le site de notre radio altitudefm.com et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union régionale FNCTA, http://fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'appeler au 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mise en scène éclairée et sonorisée par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Bonne journée, au revoir. Au revoir.